Euradio Nantes présente Est-Ouest, balle au centre, le grand oral de Génération 112.
Generation 112, EU Radio Nantes.
Bonjour, bienvenue dans Est-Ouest, balle au centre, le grand oral, une émission enregistrée comme chaque semaine au sein du Parlement européen à Bruxelles. C'est donc sans surprise que le FMI a pris acte de la démission de son directeur général, Dominique Strauss-Kahn. Inutile de revenir sur l'affaire, elle est à la une de toutes les chaînes, de tous les quotidiens du monde entier. En revanche, c'est une occasion de s'intéresser à ces organisations financières internationales que l'on connaît très mal. Quels sont-ils? Quel est leur rôle? Quels en sont les enjeux pour les prochaines heures, les prochains mois? Alors que les intrigues ont déjà commencé pour trouver un successeur aux Français à la tête du Fonds monétaire international, nous avons choisi d'intituler cette 25e émission de la saison 2010-2011 sur le rôle de l'Europe dans les institutions financières internationales, Sauver les meubles. Notre invité, Éric Toussaint, est l'auteur de nombreux livres sur la finance internationale, dont nous pourrions citer la crise, quelle crise, de 2010 avec son compère Damien Millet, et puis 60 questions, 60 réponses sur la dette du le FMI et la Banque mondiale. Éric Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme beaucoup, les auditeurs savaient qu'un Français dirigeait une grande organisation internationale. En revanche, il était un peu plus complexe d'expliquer le rôle précis de cette institution. Alors, peut-être une première question. Peut-on préciser le contexte de la naissance du FMI et quelle date retenir de son histoire ?
Le FMI est né en 1944. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas encore terminée. Il a été fondé en même temps que la Banque mondiale par 40 des représentants de 44 pays invités aux États-Unis dans la petite ville de Bretton Woods par le président Franklin Roosevelt. Les protagonistes principaux lors de la constitution de ces deux institutions étaient les États-Unis et la Grande-Bretagne. Dans un rapport qui était plus marginal, la France et des petits pays alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale comme la Belgique et les Pays-Bas. Évidemment, l'Allemagne nazie n'était pas convoquée à cette réunion, le Japon n'en faisait pas partie. Par contre, l'Union soviétique, on était encore à cette époque dans l'alliance entre États-Unis et Union soviétique face au nazisme, était partie prenante. Alors, l'objectif de ceux qui ont fondé le Fonds monétaire international était de doter le monde d'une institution qui allait intervenir afin de réguler les marchés, notamment les marchés de change, et d'intervenir de manière à garantir le plein emploi dans tous les pays membres. C'est inscrit noir sur blanc dans ces statuts et je mentionne cela parce qu'au cours du temps, on identifie généralement les politiques du Fonds monétaire international comme des politiques qui ne visent pas du tout le plein emploi, mais visent plutôt de garantir le remboursement des dettes. FMI, je disais, donc régulation des marchés, en fait... Des chefs d'État comme Roosevelt et le représentant de la Grande-Bretagne à cette conférence, John Maynard Keynes, étaient convaincus qu'on ne pouvait pas laisser les marchés financiers fonctionner sans des régulations très fortes. Il faut se souvenir qu'on sortait de la crise des années 30 et que Roosevelt avait mis en place toute une série d'organismes qui visaient à lutter contre la déréglementation et les dérives des marchés financiers. Je mentionne cela parce que, donc ça c'est 1944, je mentionne cela parce que au cours des 30 dernières années, le Fonds monétaire international a adopté une mission tout à fait différente qui est celle de déréglementer, de favoriser la déréglementation des marchés financiers, et ça a à voir avec la crise que nous traversons aujourd'hui. Alors il y a un deuxième élément qu'on relie à une date importante qu'on relie à l'histoire du Fonds monétaire international, c'est 1971, de 1944, donc de la création jusqu'en 1971, il y avait une monnaie de réserve internationale officielle, le dollar, qui, c'est toujours le cas, on peut dire, mais la spécificité jusque 71, c'est que ce dollar était convertible en or et à un taux fixe. On avait donc un régime de change fixe, en tout cas entre dollars et or, et ça permettait une stabilité monétaire importante. À partir de 71, été 71, le président des États-Unis, Richard Nixon, a mis fin à la convertibilité du dollar en or, et on est arrivé dès lors dans les années 70 à un FMI dont on se demandait mais à quoi sert-il encore, puisque il n'y a plus la stabilité d'avant et il n'y a plus le moyen d'opérer parce qu'on n'a pas mis en place une autre régulation. Et on est entré dans une période de régime de change flexible. On a parlé du serpent monétaire européen dans les années 70, et c'était dans les premières étapes de la consolidation du marché commun européen. On a eu des crises de change importantes au niveau européen à l'époque. Enfin, je termine en disant que le Fonds monétaire international, j'ai déjà mentionné les 30 dernières années, le Fonds monétaire international s'est converti progressivement à l'égard d'un grand nombre de pays en développement en un créancier très important. C'est particulièrement le cas depuis 1982, quand a éclaté la crise de la dette dite du tiers-monde, qui a commencé par le Mexique. Le FMI a prêté de l'argent à un pays comme le Mexique et puis aux autres pays en développement qui avaient des difficultés de remboursement, à condition que ceux-ci utilisent l'argent prêté pour rembourser les banquiers privés internationaux, en priorité les Nord-Américains, et à condition qu'ils mettent en place des politiques d'ajustement structurel connues sous le thème consensus de Washington, c'est-à-dire un ensemble de recettes néolibérales qui impliquent privatisation, déréglementation du marché du travail dans les pays concernés, augmentation des taxes indirectes du type taxe sur la valeur ajoutée, à abandon du contrôle des prix, enfin toute politique qui ont comme philosophie de faire lever, d'abandonner toute une série de mécanismes de contrôle qui avaient été mis en place des années 30 aux années 70, à la fin des années 70. Et c'est pas par hasard que ces politiques qui ont commencé à être mises en place à partir de 82 l'ont été à l'époque où Margaret Thatcher était devenue la première ministre britannique et Ronald Reagan le chef de l'État aux États-Unis, c'est-à-dire où on passait d'une politique de type keynésienne pratiquée de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70 à une politique néolibérale comme celle qu'on connaît encore aujourd'hui.
Alors le FMI donc a une histoire et qu'on va on va souligner notamment à ce qui se passe de ces derniers mois et ces prochaines heures en Grèce. Je faisais écho dans l'introduction à la lettre de démission de Dominique Strauss-Kahn envoyée de sa prison de Riker Island et les négociations qui se sont ouvertes. Alors un directeur du Fonds monétaire international, est-ce difficile à trouver?
Écoutez, un directeur du Fonds gagne 500 000 dollars par an. Pour des dirigeants de grandes banques et de fonds de pension, c'est pas énorme, mais pour de hauts fonctionnaires publics ou pour des ministres, ça représente quelque chose d'intéressant. Et donc, il y a pas mal de candidats, et d'ailleurs, on sait que Christine Lagarde ou le ministre belge des Finances, le libéral Didier Reynders, se verrait bien comme successeur de Dominique Strauss-Kahn. Donc on ne va pas manquer de candidats. Maintenant, trouver un accord entre les pays pour le désigner, c'est un peu plus compliqué. Et vous savez qu'il y a une règle tacite, je dirais parfaitement antidémocratique, qui est en vigueur depuis la création de la Banque mondiale et du FMI en 1944, c'est que le président de la Banque mondiale a toujours été un citoyen des États-Unis désigné par le président des États-Unis et le directeur général du FMI a toujours été un Européen désigné par les plus grands, les pays européens les plus puissants. Il est clair que cette règle antidémocratique est contestée par de plus en plus de pays et donc cette démission de DSK accélère une discussion qui avait démarré sur appliquer des règles différentes dorénavant. Et il ne serait pas étonnant que certains pays manifestent à l'occasion des débats sur le nouveau directeur la nécessité, manifestent leur envie de voir appliquer d'autres règles.
Alors ça me permet de poursuivre sur la question de qui a le pouvoir finalement au FMI. On parle souvent de cette question du veto au FMI. Alors j'avais une question, qui dispose du veto et est-ce une carte maîtresse?
Ah, c'est fondamental. Et le veto n'existe pas dans les statuts du FMI. C'est donc un veto de fait et c'est très simple. Sur toutes les décisions importantes, il faut une majorité de 85%. 85%, je dis bien, et les États-Unis disposent de un peu plus de 16% des voix. Donc, les États-Unis ont un droit de veto de fait et ils tiennent. Quelques pays européens pourraient se rassembler pour exercer aussi un droit de veto. Mais le seul pays à en disposer à titre personnel, je dirais, ce sont les États-Unis. Et alors, qui détient le pouvoir? Une poignée de pays. Je dirais que le G8, c'est même pas... c'est plus large, le cercle du G8, que ceux qui détiennent réellement le pouvoir dans le FMI. Le FMI, ça, les décisions réelles, les accords se prennent plutôt, si je parle du G8, sans tenir compte de la Russie, du Canada et de l'Italie. Ça joue entre les cinq autres.
Mais alors comment on explique un peu cette présence européenne un peu paradoxale finalement, puisqu'on voit qu'il y a des enjeux plutôt importants pour l'Europe? Alors on avait certes la présidence, mais comment expliquer qu'au niveau de l'administration du FMI, on n'ait pas réussi à s'entendre jusqu'à présent?
Sur quoi? Sur quelle
sur cette question de rassembler un espèce de d'attitude homogène au sein du FMI pour avoir justement dépasser ce 15% et avoir ce droit de veto.
Mais en fait, c'est très simple. Pour changer cette règle, il faudrait que les États-Unis renoncent à ce droit de veto. Et donc c'est même pas un accord entre Européens qu'il faut, c'est un changement fondamental aux États-Unis. Il faudrait avoir un gouvernement aux États-Unis qui aurait comme orientation l'option fondamentale suivante, ce serait de dire, voilà, pendant plus d'un siècle, nous avons revendiqué très clairement le leadership mondial, et maintenant la situation a changé. Nous en tenons compte et nous optons pour une position différente. Tant que ça ne change pas à Washington, aux États-Unis, ça ne changera pas, ça ne peut pas changer. Et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, et avec l'organisation que j'anime, qui est le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, je plaide pour la construction d'une nouvelle institution internationale. Car je ne vois pas comment on peut réformer le FMI avec le type de rapport de force actuel.
Alors justement, puisque l'histoire est parfois assez rapide et on voit que les premiers bilans émergent, en tout cas on essaye de faire les premiers bilans de ces dernières années au FMI, selon vous, est-ce que le FMI de 2011, c'est-à-dire après le mandat de Dominique Strauss-Kahn, est différent du FMI de 2008? Ou est-ce qu'il y a pour vous une de toute façon une continuité et des mesures qui ne vont pas dans le bon sens?
On ne va pas dans le bon sens. Quand Dominique Strauss-Kahn a été désigné par Sarkozy, enfin a été le candidat de Sarkozy, et on a convaincu les autres pays européens d'accepter le candidat français, certains ont imaginé que, vu l'orientation affichée socialiste Dominique Strauss-Kahn, on allait avoir une direction pour un retour, une direction du FMI qui agirait pour un retour aux politiques keynésiennes. Je vous ai dit que les politiques keynésiennes ont été d'application de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70. Et elles étaient d'application, évidemment, ces politiques keynésiennes au cours des années 30, tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Après 30 ans de néolibéralisme, on s'est dit, avec un socialiste et dans un climat de crise générale de la déréglementation financière, puisque 2007-2008, c'était la démonstration évidente que la déréglementation financière, notamment le secteur bancaire, était le facteur fondamental de la crise, qui expliquait la crise, on s'est dit, on va assister à un grand tournant néo-keynésien. En fait, pendant quelques mois, cette attente-là a semblé confirmée parce que face à l'ampleur de la crise et notamment la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 et les faillites en chaîne qui ont suivi, tant la Commission européenne que la direction du FMI que le gouvernement, et on était encore avec Bush, le gouvernement des États-Unis, ont mis en place une série d'amortisseurs sociaux pour réduire l'impact de la crise et ont été jusqu'à prendre certaines mesures de nationalisation, notamment aux États-Unis. On a nationalisé plusieurs banques et assurances, puis en Grande-Bretagne aussi avec Royal Bank of Scotland et d'autres institutions bancaires en Allemagne. Mais ça a duré très peu de temps. Je dirais que à partir de 2009, et c'est absolument évident en 2010, on a assisté à l'application de ce que Noémy Klein appelle la stratégie du choc. On a mis en place une dose de politique néolibérale beaucoup plus dure que celle qu'on avait connue dans les années 80 et 90 en Europe. Si on analyse les exigences et les plans d'austérité mis effectivement, les exigences du FMI et les plans d'austérité mis en place en Grèce à partir de mai 2010, en Irlande à partir de novembre 2010 et maintenant en ce qui concerne le Portugal, on a l'image de plans d'ajustement structurel type pays en développement appliqués maintenant dans des pays qui font partie de l'Europe historique, sans parler des politiques qui ont été appliquées par le Fonds monétaire international dès 2009 à l'égard d'autres pays membres de l'Union européenne comme la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Et sans parler non plus de l'attitude du FMI et des exigences du FMI à l'égard de l'Islande, autre pays européen mais qui lui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et donc, il y a eu une parenthèse en 2008 qui semblait donner l'impression d'un virage néo-keynésien, mais en réalité, 2009, 2010, 2011, et sous la conduite de Dominique Strauss-Kahn, mais évidemment aussi il y a les autres protagonistes, Angela Merkel, Sarkozy, d'autres chefs d'État ou de gouvernement, et Barack Obama aux États-Unis, on a la poursuite, en fait, et même l'aggravation du cours néolibéral, ce qui fait d'ailleurs qu'on voit mal comment cette crise ne puisse pas être de longue durée, parce que quand on décide de comprimer la demande, notamment en gelant les salaires, en réduisant une série de droits sociaux et en réduisant les dépenses publiques, on voit mal comment l'économie pourrait réellement redémarrer. Ce n'est pas la seule locomotive chinoise qui peut relancer l'économie mondiale.
Alors on voit qu'en Grèce, la situation ne s'améliore pas, peut-être aussi à cause de ces plans de rigueur, mais on voit qu'on parle de plus en plus alors de rééchelonnement, de restructuration de la dette. Est-ce qu'on joue sur les mots ou est-ce que, clairement, il va falloir passer à une deuxième étape pour la Grèce ?
Tous les banquiers, qu'ils soient les banquiers des banques centrales ou les patrons des banques privées, savent qu'il y aura à un moment donné des réductions de dette. La question, c'est de reporter le plus tard possible celle-ci du point de vue des banquiers et de faire en sorte que dans le délai entre le début des réductions de dettes et aujourd'hui, ces banquiers privés se soient mis à l'abri. C'est comme ça qu'on peut comprendre que le Fonds monétaire international, la Banque centrale mondiale, la Banque centrale européenne et le Fonds économique de stabilisation financière mis en place par l'Union européenne, c'est pour cela que ces acteurs, donc FMI, Banque centrale européenne, Fonds européen de stabilisation financière, se transforment en détenteurs de titres de la dette. C'est-à-dire que progressivement, les banquiers se retirent du marché de la dette publique et, refilent la patate chaude à des institutions qui se transforment en principaux créanciers. Dans le cas de la Grèce a une dette de 340 milliards, c'est considérable, hein, 340 milliards d'euros. Le FMI et les institutions européennes en détiennent déjà 95. Avant mai 2010, c'était zéro aux mains du FMI et des institutions européennes. Donc on a eu une explosion de la dette publique détenue par ces grands acteurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y aura une réduction de dette, ce sera sur le dos des créanciers publics. Et on demandera aux États de contribuer à l'effort nécessaire pour cela. Ce qui fait que, si on tire déjà un premier bilan des trois dernières années, on a eu une intervention publique des pouvoirs publics tant aux États-Unis qu'en Europe pour sauver les banques privées. Il y a eu une socialisation des pertes des banques privées prises en charge par les pouvoirs publics, ce qui a produit une explosion de la dette publique. Et maintenant, on se prépare à des montants très élevés de dette publique, une progression de celle-ci, et un transfert vers des institutions publiques internationales. C'est-à-dire que on est rentré dans un cycle qu'on peut comparer à la situation internationale des années 80 aux années 2000 en ce qui concerne les pays en développement où Banque mondiale et FMI étaient des créanciers extrêmement importants de ces pays et rassemblaient les moyens d'imposer à ces pays des plans d'ajustement structurel.
Alors vous êtes un des grands spécialistes de la finance internationale. On a aujourd'hui plusieurs acteurs. Vous avez mentionné la Banque mondiale, le FMI, le G20, le G8. On a un peu du mal à comprendre vraiment où est le pouvoir, où sont les cercles où pourraient être pris éventuellement des initiatives qui permettent de faire face concrètement aux difficultés que connaît aujourd'hui notamment l'Europe.
Oui, c'est clair. On est passé du G8 au G20 parce que les pays émergents, ce sont eux qui détiennent la plus grande partie des réserves internationales en devises. Ce ne sont pas les pays européens ou les États-Unis. Il fallait donc convoquer en tant que G8, je parle du point de vue de l'intérêt des gouvernements du G8, il fallait convoquer les pays émergents, et donc on a réuni le G20 en invitant les Chinois, les Indiens, les Brésiliens à en faire partie. Ceci dit, ce n'est pas le G20 qui décide. Les décisions restent du domaine réellement du gouvernement des États-Unis, des principaux gouvernements européens, et du Japon. Les Chinois commencent à taper du poing sur la table et se font entendre, mais n'interviennent pas véritablement de manière institutionnalisée dans la résolution des conflits. Alors comment pourrait-on voir un changement ? Soit un changement de composition de majorité politique dans les pays qui jouent un rôle clé, soit du côté du sud de la planète, le démarrage d'institutions alternatives qui remettraient en cause, l'ensemble de l'édifice international en constituant une nouvelle architecture qui soit plus favorable aux intérêts des populations. Et puis, il y a, en dehors des gouvernements, l'action de la rue, l'intervention des citoyens dans la politique pour essayer de modifier les règles du jeu, ce qui, de mon côté, est un élément tout à fait déterminant.
Alors, on a compris que le FMI et le G20 étaient un peu, tenus, en tout cas, paralysés par des intérêts financiers. Est-ce que la Banque mondiale a plus de vertus à vos yeux ?
Non.
Non, non.
Non, elle est soumise aux mêmes règles, elle est dominée par les mêmes intérêts que le Fonds monétaire international. Maintenant, cette Banque mondiale pèse très peu aujourd'hui dans la crise européenne. En fait, la Banque mondiale a un poids à l'égard des pays les plus pauvres de la planète, très peu de poids à l'égard des économies émergentes des pays en développement. La Banque mondiale a été marginalisée au cours des dernières années par le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale n'est malheureusement pas une alternative, une institution qui fonctionnerait selon d'autres règles.
Éric Toussaint, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez réécouter et même podcaster cette émission en ligne sur le site de Génération 112, www.génération112.eu, et sur le site de l'Euradio, www.euradionantes.eu. Merci et à très bientôt.
C'était Est-Ouest, Balle au Centre, le grand oral de Génération 112. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur euradionantes.eu.